13 août 1994, Khartoum, capitale du Soudan. Sur une table d'opération de l'hôpital Ibn Khaldoun, Ilich Ramirez Sanchez, alias Carlos Chacal, se fait retirer un varicocèle. Une malformation bénigne qui l'empêche de faire un enfant à Lana, sa compagne jordanienne de 20 ans, sa cadette. L'intervention est une formalité. Dans quelques heures, le chacal pourra retourner à sa vie clandestine, aux côtés des autres terroristes, que la capitale soudanaise héberge gracieusement. Mais pour le moment, il se remet de son anesthésie locale sur son lit médicalisé.
En fin d'après-midi, un agent de la Sûreté d'État soudanaise rend visite à Carlos pour le prévenir qu'une puissance étrangère cherche à le rayer de la surface de la Terre. Il lui offre de l'escorter dans un lieu sûr. Le chacal le suit sans broncher.
Carlos passe les 24 heures suivantes dans une villa à l'est de Khartoum. Sa planque ressemble davantage à une prison qu'à un club de vacances. Les rues arides du quartier Al-Taïf sont tristes à en pleurer. Mais Carlos a l'habitude. Depuis quelques années, il a tiré un trait sur la vie de roi qu'il menait dans les pays de l'ancien bloc soviétique. À présent, l'essentiel pour lui, c'est de rester libre et vivant.
août 1994. Le jour décline déjà au-dessus d'Al-Taïf, quand les hommes de la Sûreté d'État débarquent dans la chambre de Carlos sans avoir été invités. Ils menottent le terroriste qui ne se débat pas. Les Soudanais s'excusent. Certains pleurent.
« I'm sorry, mon commandant. »
Le Coran interdit de trahir celle ou celui à qui on a offert l'hospitalité. Mais Ilich Ramirez Sanchez est un clandestin. Il n'a même pas de passeport officiel. Un médecin militaire pénètre à son tour dans la chambre et lui administre un puissant sédatif.
Carlos se réveille dans l'avion, saucissonné dans un sac de jute. La cagoule qu'on lui a passée sur la tête l'empêche de voir ses ravisseurs. La peur le tenaille. Où l'emmène-t-on ? En Arabie Saoudite ou en Israël, où il sera torturé à mort ? Comment savoir ? Il s'est fait tellement d'ennemis au cours de sa carrière de terroriste, il ne ferme pas l'œil de la nuit. Le jet finit par perdre de l'altitude. L'atterrissage est proche. Les hommes autour de lui s'agitent. Des Français. Carlos respire. Il a échappé au pire.
15 août 1994. Le Falcon de l'armée de l'air se pose sur la piste de la base aérienne 107 à Vélizy-Villacoublay, dans les Yvelines. À son bord, un commando de la DST, la direction de la surveillance du territoire, le contre-espionnage français. 10 hommes qui viennent de faire le plus beau coup de filet de leur carrière. Dans leur bagage, Ilich Ramirez Sanchez, alias Carlos le Chacal. Le terroriste le plus recherché par les services de renseignement de l'Hexagone. Immédiatement écroué à la prison de la Santé, Carlos retrouve Paris que ses attentats ont meurtri dans les années 70 et 80. Mais désormais, le chacal ne fera plus aucune victime. Carlos naît le 12 octobre 1949 à Caracas, la capitale du Venezuela. Dès le premier jour de sa vie, il est voué à l'action révolutionnaire. Son père, José Altagracia Ramirez, scelle son destin en lui donnant le second prénom de Lénine, Ilich. José Ramirez en fait de même avec son fils aîné, et en fera autant avec son dernier. La famille Ramirez compte donc 3 enfants, Vladimir, Ilich, et Lénine. Tout un programme.
Carlos vit une enfance aisée. Son père, avocat pénaliste, est l'héritier d'une longue lignée de propriétaires terriens et industriels. Et il détient en plus, de son cabinet d'avocat, des distilleries dont il tire d'importants revenus. Cette opulence ne l'empêche pas d'élever ses enfants selon les préceptes du communisme. Fervent marxiste et léniniste, José les biberonne à la littérature révolutionnaire. La mère, Elba Maria Sanchez, n'y voit pas d'inconvénient. Férue d'art et de culture, elle apprend de son côté les bonnes manières à ses enfants. Carlos apprend donc les codes de la bourgeoisie et ceux du communisme. Un enseignement qu'il saura très tôt mettre au service de ses ambitions.
Ilich Ramirez Sanchez grandit dans un Venezuela en pleine ébullition. Après des décennies de dictature, le dernier despote, Marcos Pérez Jiménez, est renversé par un soulèvement populaire et militaire le 23 janvier 1958. Le Parti communiste vénézuélien est le principal instigateur de cette révolution démocratique. Pourtant, lors des élections présidentielles qui suivent ces événements, le candidat communiste est battu par Romulo Betancourt. Betancourt mène une politique qui préserve les privilèges de la bourgeoisie et bafoue les droits du peuple. Les manifestations reprennent et se multiplient. Les étudiants, exaltés par le marxisme et la victoire de la révolution cubaine le 1er février 1959, sont nombreux à descendre dans la rue. Le pouvoir les réprime dans le sang.
Carlos est profondément marqué par la brutalité et la sauvagerie des autorités. Dès 1964, il rejoint les rangs de la jeunesse communiste révolutionnaire. Il est révolté par le sort qu'un gouvernement assassin réserve à ses congénères. Il a beau n'avoir que 15 ans, il a déjà hâte de mettre en pratique les enseignements qu'il a reçus de son père. Auprès des communistes, il apprend à fabriquer des cocktails Molotov et à manier les armes. Il se prend aussi de passion pour le commandement. Il gère un réseau d'étudiants de Caracas qui organise des affrontements entre insurgés et forces de l'ordre. Mais à la fin des années 60, son père prend peur en le voyant appliquer à la lettre les théories qu'il lui a transmises. Pour lui épargner les geôles sordides de Caracas, il l'envoie à Londres avec ses deux frères et sa mère. Et en 1968, grâce à une bourse du Parti communiste vénézuélien, Carlos part faire ses études à l'université Patrice Lumumba de Moscou, où on forme les futurs cadres du tiers-monde. Le Vénézuélien n'y trouve pas son compte. Ce n'est pas sur les bancs de la fac qu'on apprend à faire la révolution.
En juin 1970, l'URSS fait savoir à Ilich Ramirez Sanchez qu'il n'est plus le bienvenu sur son sol. En cause, provocation antisoviétique et vie dissipée. Les autorités désapprouvent son goût pour la fête et les femmes. Et il a été arrêté quelques mois plus tôt, alors qu'il participait à la dégradation de l'ambassade d'Iran pour protester contre la politique du Shah. Même le KGB renonce à le recruter. Carlos est ingérable et ne répond pas à leurs normes. Il doit donc quitter rapidement le territoire. Le Vénézuélien refuse de retourner à Londres pour jouer les fils de bonne famille. Il a une autre idée en tête depuis sa rencontre avec Rifat Abu Aoun, le représentant à Moscou du FPLP, le Front Populaire de Libération de la Palestine. Le FPLP est une organisation d'inspiration marxiste-léniniste qui, depuis 1968, verse dans le terrorisme international pour défendre la cause palestinienne. Le FPLP recrute tout azimut des combattants prêts à s'engager dans la guérilla. Carlos saisit l'opportunité et s'envole pour le Moyen-Orient.
Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas. On se retrouve tout de suite. Juillet 1970. Amman, capitale de la Jordanie. Carlos pénètre dans le bureau de Bassam Abou Sharif, le recruteur du FPLP, dévisage ce jeune homme de 21 ans qui se donne des allures de tché avec sa barbe et son béret. Il ne ressemble pas au fedaïn qu'Abou Sharif a l'habitude de voir. Et pour ne rien arranger, il ne parle pas arabe. Mais Illich sait se faire comprendre. « Je connais votre lutte et je veux m'engager. » Sans trembler, il raconte, en anglais, qu'il est un internationaliste révolutionnaire. Pour lui, la guerre que le FPLP mène à Israël et au sionisme est le seul mouvement actif de libération. Il veut en être. Il doit en être. Abou Sharif est impressionné par la détermination de Carlos. Il fait aussitôt de lui un membre du FPLP et l'envoie dans un camp d'entraînement dans le désert jordanien. Carlos s'exerce nuit et jour au maniement des explosifs et des armes à feu. Et il ne mâche pas ses efforts pour s'intégrer. Entre deux leçons de marxisme dispensées à ses camarades, il leur assure qu'il est venu mourir pour la Palestine. La situation géopolitique va lui offrir maintes occasions de joindre le geste à la parole.
Depuis la création d'Israël en 1948, les Palestiniens, chassés de leurs terres, trouvent refuge dans les pays limitrophes, au Liban, en Syrie et surtout en Jordanie, où les camps de réfugiés abritent les organes officiels de l'autorité palestinienne et servent de base arrière pour les attaques des fedaïnes. Les Palestiniens ne reconnaissent pas la souveraineté du roi Hussein de Jordanie, qu'ils accusent de pactiser avec l'ennemi impérialiste. Ils forment un véritable État dans l'État. La situation s'aggrave en 1967, après la défaite de la coalition arabe durant la guerre des Six Jours. En échange de la restitution des terres conquises par Israël au cours du conflit, l'ONU contraint les belligérants à reconnaître l'État d'Israël. Les Palestiniens sont de fait placés sous occupation israélienne. Une situation que le FPLP n'accepte pas. Le 6 septembre 1970, l'organisation détourne simultanément 5 avions de ligne, dont 3 atterrissent sur le sol jordanien, dans une ancienne base de la Royal Air Force. Le 12 septembre, après avoir été vidés de leurs passagers, les appareils sont pulvérisés. Le 16 septembre, pour laver cet affront, rassurer ses alliés et rétablir son autorité, le roi Hussein de Jordanie lance une offensive contre les camps de réfugiés palestiniens d'où opère le FPLP. Les bombardements durent jusqu'au 27 septembre et font des milliers de victimes. Les camps sont rasés. Les Palestiniens s'exilent ou combattent. C'est le septembre noir.
Carlos obtient ce qu'il est venu chercher à 10 000 bornes de chez lui. Il se bat arme au poing contre l'armée régulière dans le nord-ouest de la Jordanie. Et il se fait une réputation auprès des cadres du FPLP. À la fin du conflit, début 1971, Wadi Haddad, l'un des fondateurs du mouvement, le prend sous son aile. Il l'envoie en Europe pour le compte de sa nouvelle organisation, le Front populaire de libération de la Palestine, opération extérieure. Septembre 1971, Illich est de retour à Londres, chez sa mère. Il se fond dans la masse en s'inscrivant à l'université de Westminster. À 22 ans, il passe pour un étudiant comme les autres. Il est pourtant le seul représentant du FPLP sur le sol britannique. Une vraie reconnaissance. Carlos jubile. Et pour acter cette promotion au sein de l'organisation, il prend le nom de l'un de ses faux passeports, Carlos Andrés Martínez Torres. Désormais, il se fera appeler Carlos. Comme une seconde naissance.
5 septembre 1972. À Munich, c'est la deuxième semaine des Jeux Olympiques. Mais ce ne sont pas les performances sportives qui retiennent l'attention du monde entier. Ce matin-là, aux alentours de 5 heures, 8 hommes, lourdement armés, ont pris en otage une partie de la délégation israélienne. Le commando appartient à l'organisation terroriste Septembre Noir, qui tire son nom du massacre des Palestiniens par l'armée jordanienne en septembre 70. Toute la journée, et une partie de la nuit, les terroristes négocient avec les autorités allemandes et israéliennes pour faire libérer 236 de leurs camarades détenus en Israël. En vain. Un peu avant minuit, ils grimpent avec leurs otages dans un Boeing 727 mis à leur disposition par les forces de l'ordre. Ils pensent pouvoir s'enfuir au Caire, mais c'est un piège. À l'intérieur du jumbo jet, il n'y a aucun membre d'équipage. Les assaillants comprennent qu'ils ont été dupés et exterminent leurs 11 otages. En représailles, Israël lance l'opération Colère de Dieu. Les services secrets du Mossad reçoivent l'ordre d'abattre les commanditaires présumés de la prise d'otages et des responsables des organisations terroristes palestiniennes. À Paris, Mohamed Boudia, proche de Wadi Haddad, et le chef de la section européenne du FPLP, est assassiné rue des Fossés-Saint-Bernard. Wadi Haddad veut se venger. Il charge ses agents en Europe de frapper des soutiens d'Israël.
30 décembre 1973. Londres, Royaume-Uni. Carlos se met sur son 31 et glisse son pistolet Tokarev 33 dans la poche de son manteau. Il est vêtu comme un lord. C'est sa mère qui lui a transmis cette science de l'élégance. Une compétence nécessaire quand il s'agit de passer inaperçu. Le Vénézuélien sort dans le froid glacial de la capitale anglaise. Les Londoniens préparent le réveillon de la Saint-Sylvestre. Mais Carlos a d'autres projets en tête pour les festivités de fin d'année. Il progresse dans les rues enneigées et arrive bientôt devant le domicile cossu de l'homme qu'il doit descendre. Une maison de 30 pièces en plein cœur de Londres. Il monte les quelques marches du perron, enfile une cagoule et sonne à la porte d'entrée. Le majordome ouvre et se fige devant le canon du Tokarev. Carlos lui ordonne de le conduire jusqu'à son maître.
À cette heure-ci, Joseph Sieff, PDG de Marks & Spencer et président de la Fédération sioniste de Grande-Bretagne, prend son bain. Entendant la porte s'ouvrir dans son dos, il croit à l'arrivée de son domestique. Il tourne la tête pour le sermonner. Qu'y a-t-il qui mérite qu'on le dérange dans un moment pareil ? Pour toute réponse, une balle lui transperce la lèvre supérieure. Il perd connaissance.
Joseph Sieff gît dans l'eau de son bain. Sa plaie ouverte déverse des flots de sang qui se mêlent à la mousse. Carlos appuie sur la gâchette pour l'achever. Mais son Tokarev s'enraye. Il renonce à donner le coup de grâce. Il doit partir. La détonation ne va pas tarder à ameuter tout le quartier. Carlos redescend les escaliers et sort dans la rue. Avec ses allures de seigneur, il se fond dans la foule sans se faire repérer.
Le terroriste est déjà loin quand Joseph Sieff recouvre ses esprits. Le patron de Marks & Spencer n'est que très légèrement blessé. Il s'en tire à bon compte. Quelques jours plus tard, le FPLP revendique la tentative d'assassinat. Les services secrets anglais se lancent sur la piste de l'assaillant. Dans l'une de ses planques, il trouve un exemplaire du roman de Frédéric Forsyth, intitulé « The Day of the Jackal ». En français, « Chacal ». Carlos vient de gagner un surnom qui le suivra toute sa vie. Le Chacal. Un sobriquet qui lui sied parfaitement. Tout comme le canidé, Ilich Ramirez Sanchez est un opportuniste. Et c'est à Paris, où il atterrit fin janvier 74, que ce trait de caractère s'apprête à le faire rentrer dans la légende. Thank you.